Le journal de George Fox 1655-1656 Ministère ultérieur et prison de Lancaster page 3 Certes, ami, il doit y avoir une très grande offense à priver un homme de justice, du fait d'être entendu au sujet du tort subi, du bénéfice de la loi et de ses lois mentionnées plus haut, pour défendre la justice et l'équité desquelles un homme a exposé son sang et tout ce qui lui est cher. Mais le fait de rester couvert, c'est-à-dire le chapeau sur la tête, par conscience selon le commandement du Seigneur, et par vous fait une telle offense qui n'est pas dans la loi et rendue, contre nous qui sommes innocents servant le Dieu vivant, efficace pour nous refuser justice, alors que les lois de Dieu et des hommes, le serment, l'équité et la raison disent le contraire, et qu'elles prononcent pour cela une telle peine. Si vous vous découvrez, disiez-vous, je vous entendrai et je vous rendrai justice, mais nous n'eûmes point justice, et nous ne fûmes pas entendus, parce que Jésus-Christ, qui est le pouvoir supérieur, le législateur de son peuple, nous avait commandé dans nos consciences de ne point avoir égard aux personnes, et nous avons choisi de lui obéir plutôt qu'aux hommes. Vous nous avez jetés en prison et vous nous y avez gardés jusqu'à ce jour à cause de notre obéissance à lui, ne nous ayant montré ni loi pour cela, ni écriture, ni exemple de l'une ou de l'autre, ni exemple des païens ou d'autres. Amis, descendez à ce qu'il y a de Dieu en vous, qui est juste et considéré, a-t-on jamais entendu une chose pareille dans cette nation? Qu'est devenue la gravité, le vrai jugement et la justice, un homme injuste se présentant devant vous, chapeau ôté sera entendu, mais un homme innocent paraissant chapeau sur la tête par conscience envers le Seigneur ne sera ni entendu ni ne recevra justice. N'est-ce pas là avoir égard aux personnes, contrairement aux lois susmentionnées, aux serments et à la loi de Dieu, comprenez et jugez. N'avons-nous pas souvent reconnu l'autorité et le gouvernement devant la cour? N'avez-vous pas dit au tribunal que vous étiez content d'entendre de nous tant de choses sur notre reconnaissance de la magistrature? N'avons-nous pas refusé de plaider à l'acte d'accusation, bien qu'il fût si nouveau que l'Angleterre n'en avait jamais entendu parler auparavant? Ne sommes-nous pas venus quand vous avez envoyé nous chercher? Ne sommes-nous pas partis quand vous nous avez dit de partir? Et ne sommes-nous pas encore prisonniers à votre ordre et à votre volonté? A-t-il été pour vous une telle offense? Ne pouviez-vous pas ordonner qu'il fût ôté de nos têtes, quand vous nous entendiez souvent déclarer que nous ne pouvions retirer notre chapeau en conscience, selon les commandements du Seigneur, et que pour cette raison, nous ne nous conformions pas à l'usage d'ôter nos chapeaux, non par mépris de vous de l'autorité, ni par manque de respect envers vous envers quiconque, car nous disions que nous honorions tous les hommes dans le Seigneur, et reconnaissions l'autorité, qui est une terreur pour les malfaiteurs et une loi. Quel effort avez-vous fait pour ôter au juste la justice qui lui est due, et pour nous faire souffrir davantage, nous que vous saviez être depuis si longtemps injustement en prison, contrairement à la loi? La liberté de conscience n'est-elle pas un droit naturel? S'il y avait eu une loi en cette affaire, et que, liés dans nos consciences, nous n'eussions pu lui obéir, la liberté de conscience n'eût-elle pas dû prévaloir? Là où il n'y a pas de loi contre, il n'y a pas besoin d'invoquer la liberté de conscience, mais nous n'avons point offensé la loi, et pourtant, selon votre volonté, vous nous avez fait souffrir et nous faites encore souffrir pour nos consciences, là où la loi n'exige rien de tel. Et pourtant, c'est pour la liberté de conscience que tout ce sang a été versé et que les misères des dernières guerres ont été endurées, et comme le protecteur l'a dit, que ce gouvernement a été entrepris afin de la préserver. Et c'est un droit naturel. Et si c'est un droit naturel, comme cela est indéniable, alors tenter de la contraindre, ou punir un homme pour ne pas agir contre elle, c'est agir contre la nature, ce qui, comme c'est déraisonnable, revient à offrir violence à la vie d'un homme. Et quelle offense cela est dans la loi, vous le savez, et comment? Selon la Common Law d'Angleterre, tous les actes, accords et lois qui sont contre nature sont de pure nullité, et aucun juge ne peut faire qu'un cas devienne loi s'il est contre nature. Mais supposons que notre fait de rester couvert eût été une violation de la loi, et que, volontairement par mépris, et non par conscience, nous fussions restés ainsi, ce que nous nions. Cela n'est pourtant pas un motif pour nous refuser justice, ou pour nous refuser d'être entendus quant au tort qui nous a été fait. Si vous ne voulez pas offenser dans un cas, je vous rendrai justice dans un autre, ce n'est pas là le langage de la loi ni de la justice, qui distribue à chacun son droit, justice à qui justice est due, châtiment à qui châtiment est dû. Un homme qui fait le mal peut aussi subir un tort, celui à qui l'on fait tort n'aura-t-il pas droit, à moins que le tort ne soit redressé par celui qui l'a causé, la loi ne dit pas cela, mais le malfaiteur doit souffrir, et celui qui souffre d'un tort doit être rétabli dans son droit. Autrement, n'est-ce pas là un déni? Un empêchement ou un arrêt de la loi elle-même et de l'exécution de la justice, et une mise sous le coup des peines susdites, réfléchissez et considérez. Et deviez-vous nous accuser, alors qu'aucun témoin ne paraissait contre nous, comme dans les points particuliers de frapper Pete Seely et de disperser des livres, comme vous disiez contre la magistrature et le ministère, dont vous avez faussement accusé l'un de nous, la loi ne disait-elle pas, le juge ne doit pas être l'accusateur, à plus forte raison un faux accusateur. Et n'avez-vous pas été tel? en affirmant qu'il avait distribué des livres contre la magistrature et le ministère, alors que les livres avaient été violemment enlevés de notre chambre et non distribués par lui ni par aucun de nous. Vous n'avez pas non plus offert la moindre preuve que les livres, que vous avez si violemment fait enlever, fussent contre la magistrature ou le ministère, ni pris la peine de répondre à sa dénégation de votre accusation, lorsqu'il vous demandait d'étayer vos charges en montrant les livres. L'épée du magistrat de la part de Dieu ne doit-elle pas s'abattre sur de tels méfaits? Et selon l'administration de la loi, les accusations ne doivent-elles pas se faire par voie d'acte d'accusation, où l'offense doit être imputée et la loi exprimée contre laquelle elle l'est? Peut-il y avoir une instance sans acte d'accusation, ou un acte d'accusation peut-il être retenu avant que la preuve ne soit faite de l'offense qui y est imputée? Et n'avez-vous pas, en cela, agi contrairement à la loi, à son administration et à votre devoir de juge? Quel juste sujet d'offense George Fox vous a-t-il donné lorsque, sur votre production d'un écrit concernant le serment, envoyé par lui, disiez-vous au grand jury, et que vous lui avez demandé de dire si c'était son écriture, il répondit « Lisez-le devant le pays », et après l'avoir entendu lire, si c'était le sien, il le reconnaîtrait. N'est-il pas équitable, et conforme à la loi, que ce dont un homme est chargé devant le pays soit lu en sa présence et en celle du pays? Lorsqu'un papier est sorti des mains d'un homme, des altérations peuvent y être faites à son préjudice, qui, à une lecture rapide, ne se discerne pas aussitôt, mais en l'entendant lu, on peut mieux comprendre si de telles altérations y ont été faites. En justice, pouviez-vous attendre ou exiger de lui qu'il agisse autrement? Considérez aussi qu'il n'ignorait pas combien il avait déjà souffert, étant innocent, et quels efforts étaient employés pour le faire souffrir davantage. Ce qu'il dit n'était-il pas une réponse simple, franche et suffisante en droit? Bien que, comme cela a été démontré, vous ayez agi contrairement à la loi et à votre charge, en étant là son accusateur et en produisant l'écrit contre lui, et il lui appartenait, s'il le voulait, de ne vous faire aucune réponse à ce que vous présentiez ou exigiez hors du cours régulier de la loi, car c'est à la loi qu'il faut répondre, non à votre volonté. Pourquoi étiez-vous alors si rempli de rage et de fureur à cause de cette réplique? Considérez calmement, et dans la crainte du Seigneur. Pourquoi l'avez-vous injurié, notamment par les noms outrageants de battleur et de prévaricateur? Qu'a-t-il jonglé? En quoi a-t-il prévariqué? Pourquoi avez-vous usé d'un langage si menaçant, de telles menaces contre lui et contre nous, disant que vous nous feriez fouetter, ou choses semblables? La loi n'interdit-elle pas les injures, la rage, la fureur, les menaces et l'intimidation envers les prisonniers? Réfléchissez sobrement, est-ce agir en juge ou en homme, n'est-ce pas une transgression? L'épée du magistrat, de la part de Dieu, ne doit-elle pas s'abattre sur cela comme sur un méfait, que la loi juste condamne, et contre lequel la puissance supérieure se dresse, elle qui juge pour Dieu? Prenez garde à ce que vous faites, car vous ne jugez pas pour l'homme, mais pour le Seigneur qui est avec vous dans le jugement, que la crainte du Seigneur soit maintenant sur vous, prenez garde et faites ainsi, car il n'y a point d'iniquité chez le Seigneur notre Dieu, ni acception de personne, ni acceptation de présent, disait Josaphat au juge de Juda. L'orgueil, la fureur, la passion, la rage, les injures et les menaces ne sont pas du Seigneur. Celles-ci, et le principe dont elles procèdent, sont pour le jugement, et doivent passer sous l'épée du magistrat de la part de Dieu, et elles ont mauvaise odeur, surtout une expression telle que celle de menacer de nous fouetter. Une telle parole ne cède-t-elle pas davantage à un pédant, ou à un maître d'école, la baguette ou la férule à la main, qu'à vous, qui êtes le juge en chef de la nation, qui siégez au plus haut siège du jugement, qui devriez donner un bon exemple, et jugez de sorte que les autres entendent et craignent, pesez-le sobrement et considérez. Le langage menaçant ne démontre-t-il pas une inégalité et une partialité chez celui qui siège comme juge? N'est-ce pas dissuader un prisonnier de persister et de plaider l'innocence de sa cause? La loi ne l'interdit-elle pas? La loi ne dit-elle pas que les fers et tous autres liens seront ôtés du prisonnier, afin qu'il puisse plaider sans confusion et avec une telle liberté d'esprit que s'il n'était pas prisonnier? Mais lorsque celui qui doit juger selon la loi menace et intimide d'avance le prisonnier, contrairement à la loi, comment l'esprit du prisonnier pourrait-il être libre de plaider son innocence devant lui, ou attendre un jugement égal de celui qui, avant de l'entendre, menace de ce qu'il lui fera? N'est-ce pas le cas entre vous et nous? N'est-ce pas la mesure que nous avons reçue de vos mains? En cette affaire, avez-vous agi selon la loi, selon votre devoir, ou comme vous voudriez qu'on vous fît? Que ce qu'il y a de Dieu dans votre conscience juge. Et n'avez-vous pas dit qu'il existait une loi exigeant que l'on retirât le chapeau, et que vous montreriez une loi, et ne vous êtes-vous pas souvent exprimé ainsi? Mais avez-vous produit une loi, ou montré où cette loi pouvait se trouver, ou quelque précédent judiciaire, ou sous quel règne de roi, alors que nous vous l'avons si souvent demandé? Nous n'avons jamais entendu parler d'une telle loi, ni n'en avons eu connaissance, par laquelle vous nous avez jugés. Ce que nous vous demandions n'était-il pas raisonnable et juste? Était-ce une réponse pleine de bon sens et conforme à la loi que celle que vous nous avez faite, à savoir « Je ne vais pas porter les livres de loi sur mon dos à travers le pays, je ne suis pas là pour vous instruire ». A-t-on jamais entendu une pareille expression, avant ces jours-ci, sortir de la bouche d'un juge? N'est-il pas censé être de conseil en droit pour le prisonnier et l'instruire en conséquence? N'est-ce pas pour cette raison que, dans bien des cas, la loi ne permet pas aux prisonniers d'avoir un conseil? Dans toutes les cours de justice de cette nation, n'a-t-on pas su que cela se faisait ainsi? Et n'a-t-on pas souvent déclaré aux prisonniers, lorsqu'ils demandaient un conseil, alléguant son ignorance du droit, par quoi sa cause pourrait échouer, bien qu'elle fût juste, à savoir, la cour est votre conseil, celui qui juge en droit ne doit-il pas être expert en droit? Ne pouviez-vous dire par quel acte du Parlement cela avait été établi, ou par quel précédent judiciaire, ou sous quelle règne de roi, ou quand cela avait été ainsi jugé par la common law, qui sont tous les fondements que la loi d'Angleterre possède, s'il y avait eu une telle loi, même si vous ne vous souveniez pas des mots de la loi? Assurément, informer le prisonnier lorsqu'il le demandait, surtout quant à une loi dont on n'avait jamais entendu parler et par laquelle vous prétendiez le juger, afin qu'il sache selon quelle loi il doit être jugé, convient à celui qui juge pour Dieu, car ainsi la loi était lue aux Juifs, par laquelle il devait être jugé, oui, chaque jour de sabbat, tel était le commandement du Seigneur. Mais au lieu de cela, dire « Je ne vais pas porter les livres de loi sur mon dos à travers le pays, je ne suis pas là pour vous instruire », dire « Il y a une loi » et dire « Je la montrerai » et pourtant ne pas la montrer, ni dire où elle se trouve, considérez si cela s'accorde avec la décence, la vérité ou la justice. L'ensemble de vos procédures contre nous n'a-t-il pas manifestement montré que votre désir était de nous faire souffrir, et non de nous délivrer, nous qui, étant innocents, souffrions, de nous faire diffamer et couvrir d'opprobre devant le pays, et non de faire éclaircir, défendre et faire reconnaître notre innocence? Le fait d'avoir emporté nos livres, comme dit plus haut, et de les avoir parcourus si hâtivement avant notre procès, et de nous avoir accusés de quelque chose que vous disiez s'y trouver, ne montre-t-il pas que l'on y cherchait matière à nous charger, lorsque le mandat et ce tra par lequel nous étions détenus ne pouvaient tenir en droit, et que nous étions alors sur le point d'être libérés selon le cours régulier de la loi? Aurait-il pas encore, par votre refus de prendre de nos mains une copie de ce singulier mandat et ce tra par lequel nous avions été écroués, et du papier pour lequel nous avions été appréhendés, afin de le lire ou d'en faire donner lecture, que nos longues souffrances à cause de l'un et de l'autre puissent être examinées et pesées au regard de la loi, pour voir si elle était juste ou équitable, et que le pays puisse voir notre innocence et nos souffrances sans cause, et la manière dont on nous traitait, autant qu'il entendait les rapports qui... Mais ce qui pouvait nous diffamer et nous charger, vous l'avez introduit vous-même, contrairement à la loi, et vous avez demandé qu'on nous en charge. N'est-ce pas encore manifeste en ce que vous nous avez fait retirer soudainement, et fait appeler le petit jury avec son verdict, à la suite de quoi l'accusation mensongère de Pete Seeley contre George Fox, l'avoir informé en privé d'un dessein et l'avoir persuadé de s'y joindre, fut par George Fox si clairement mis au jour comme un mensonge manifeste, et si évidemment perçu, qu'il apparut que la cause de nos souffrances n'était aucun mal que nous eussions commis ni aucune loi que nous eussions transgressée, mais la malice et la... Et n'est-ce pas abondamment clair, du fait que vous ne nous avez pas permis de répondre, et de nous disculper des nombreuses ignobles calomnies portées contre nous dans ce nouvel acte d'accusation, dont aucune preuve n'a été apportée? Mais lorsque nous répondions à cela et nous en disculpions, vous nous avez arrêtés en disant, vous ne vous occupez pas de ces choses mais seulement de l'histoire du chapeau, alors que devant le pays, le nouvel acte d'accusation nous chargeait de ces choses, et que le petit jury rendit son verdict, coupable des délits et mépris qui sont mentionnés, dont sauf quant au chapeau par un témoin ni un élément de preuve ne fut produit, et quant au chapeau aucune loi ni précédent judiciaire, sur la transgression desquels tous les actes d'accusation. Or la loi ne cherche pas des causes pour faire souffrir l'innocent, mais elle aide à redresser celui qui souffre d'un tort, soulage l'opprimé, et recherche l'affaire dont un homme est accusé, s'il en est coupable ou non. Elle recherche le jugement et hâte la justice, et elle dit « Ne faites pas mourir l'innocent et le juste ». Mais que vous nous ayez ainsi traités ou au contraire, que le témoin de Dieu en vous l'examine et en juge, comme ses fruits les vôtres le manifestent aussi. Et amis, considérez combien une procédure est abominablement mauvaise, combien elle doit être hautement abhorrée, niée et dénoncée, et combien elle est contraire aux lois, à savoir charger un homme de nombreuses offenses dans un acte d'accusation, que ceux qui rédigent l'acte, ceux qui poursuivent et ceux qui retiennent la plainte savent être fausses, et qu'ils y mettent délibérément pour diffamer et blesser sa bonne renommée. Et avec quelques petits points qu'ils puissent prouver, ils le chargent et l'inculpent, comme c'est aujourd'hui la pratique commune. Prouver seulement une accusation particulière de l'acte, et il doit tenir, disent-ils, pour une plainte véritable, quand bien même il y aurait quantité de fausseté et de mensonges, mis exprès pour faire tort à celui qui est poursuivi par malice, cela est connu des juges, et presque de tout homme qui a affaire à leur cour et les fréquente. Combien cela est contraire à la fin et à la justice de la loi, qui absout l'innocent et condamne le coupable, et ne condamne pas le juste avec le méchant. On s'en plaint beaucoup, mais quelle réforme y a-t-il de cela? Comment autrement les greffiers d'assises et autres greffiers des cours rempliraient-ils leurs sacs, sur lesquels peut-être leur maître doit avoir une considération secrète, et s'enfleraient-ils d'orgueil et d'impudence, au point que, même en pleine cour, ils se permettent de reprendre et d'injurier des hommes sans réprimande, quand quelques lignes y suffiraient au lieu de cent? Comment autrement l'esprit qui est en l'homme, qui convoite l'envie, la malice, la crêle et la contention, serait-il encouragé et nourri, pour nourrir les gens de loi et les dépendants des cours avec le pain des enfants des hommes et la ruine de leurs familles, afin d'entretenir leurs longs procès et leurs disputes malicieuses? Qu'un juge dise « Je ne m'occupe pas de ces choses, je ne vous écouterai pas, disculpez-vous de ce dont on vous accuse faussement, une seule chose m'importe dans votre charge, le reste n'est que formalité, mise là pour vous faire passer devant le pays pour des hommes si méchants, alors que la chose qu'on doit prouver contre vous ne suffit pas à l'établir. » Oh, abominable méchanceté et perversion de la fin juste de la loi, si attentive et si délicate à la paix et à l'innocence de tout homme, comment la loi, dans son administration, est-elle adultérée par les avocats, comme les Écritures sont mutilées par les prêtres, et ce qui fut fait pour préserver les justes et punir les méchants, perverti pour punir les justes et préserver les méchants. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, coup pour coup, que celui qui accuse un homme faussement souffre la même chose que celui qui fut faussement accusé aurait dû souffrir s'il avait été coupable. Ainsi parlait la loi juste de Dieu, qui s'accorde avec ce qu'il y a de Dieu dans la conscience de chaque homme. Ne faut-il pas renier de telles formes d'iniquité, si contraires à la loi de Dieu et des hommes, celles qui servent à engendrer la crêle et à allumer la contention, et n'est-ce pas cette nature même qui faisait qu'on nous mettait en accusation? Et n'avez-vous pas soutenu cette forme, en ne nous permettant pas de répondre aux nombreuses infâmes calomnies qui s'y trouvaient, disant « Je ne m'occupe pas de ces choses ». La colère de Dieu ne sera-t-elle pas révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice, qui sont si éloignés de la puissance de la piété, qu'ils n'en ont pas la forme, mais la forme de l'iniquité dressée et maintenue à la place de la loi et comme loi, pour renverser et détruire la justice du juste, et ainsi l'enfermer de telle sorte que, par la loi, ils ne puissent jamais en sortir. Le cri, pensez-vous, n'est-il pas monté? Il est temps que tu agisses, ô Seigneur, car ils ont annulé ta loi. L'heure n'approche-t-elle pas? La mesure de l'iniquité ne se remplit-elle pas à grands pas? Assurément le jour vient, et il se hâte. Vous avez été avertis de la présence et par la bouche du Seigneur, et il sera clair quand il viendra en jugement, et droit quand il prononcera la sentence. Ce qu'il y a de Dieu, dans chacune de vos consciences lui rendra ainsi témoignage et le confessera, et vos bouches seront closes, et devant votre juge vous serez silencieux, lorsqu'il vous départira votre portion et vous rendra selon vos œuvres. Donc, tant que vous avez du temps, estimez-le et repentez-vous, car véritablement, notre Dieu viendra et ne gardera pas le silence, un feu dévorera devant lui, et ce sera une grande tempête tout autour de lui. Il appellera les cieux d'en haut et la terre, afin de juger son peuple, et les cieux déclareront sa justice, car Dieu est juge lui-même. Considérez ceci, vous qui oubliez Dieu, de peur qu'il ne vous mette en pièces et qu'il n'y a personne pour délivrer. Et, amis, deviez-vous rendre jugement contre nous, où vous nous avez infligé une amende de 20 marks chacun, et l'emprisonnement jusqu'au paiement sans faire en sorte que nous, étant prisonniers, soyons amenés devant vous, pour entendre le jugement et présenter ce que nous avions à dire en arrêt de jugement. N'est-ce pas contraire à la loi, comme cela est manifeste pour ceux qui connaissent la procédure? Le prisonnier ne doit-il pas être appelé avant que le jugement ne soit rendu, et l'acte d'accusation et le verdict ne doivent-ils pas être lus, et ne doit-on pas lui laisser la liberté d'invoquer l'arrêt de jugement, et si l'exception est juste en droit, ne doit-il pas y avoir arrêt de jugement? Car l'acte d'accusation peut ne pas être rédigé selon la loi, et peut être mal placé, et l'offense qui y est imputée peut ne pas constituer un crime en droit, ou le jury peut avoir été corrompu, menacé, ou poussé par certains des juges de paix, avec d'autres particularités, reconnues comme des exceptions légales et justes. Et le jugement doit être rendu à l'audience du prisonnier, et non derrière son dos, comme si le juge était si conscient de l'erreur qu'il n'osait pas la prononcer au visage du prisonnier. Et ces privilèges de la loi, cette justice, nous qui avions si longtemps et si grandement souffert contrairement à la loi, ne les avons pas reçus, ni n'avons pu les obtenir de vos mains, non pas même une copie ou la vue de selon un nouvel acte d'accusation, dont on n'avait jamais entendu parler en Angleterre, pas plus que du fait que la matière qui était contenue fut une offense en droit, ni qu'il y eut jamais une loi ou un précédent judiciaire qui le rendût tel, bien que deux de nos amis en ont et pour notre compte, cette nuit. Et il est probable que vous n'ignoriez pas, ou n'aviez pas perdu de vue, que si nous avions été appelés comme nous aurions dû l'être, ou si nous avions su quand le jugement devait être rendu, trois ou quatre mots auraient pu suffire à obtenir un arrêt légal du jugement rendu sur ce nouvel acte d'accusation, et sur le verdict qui s'ensuivit. Ainsi comme nos libertés, nous qui sommes innocents n'ont pas, selon vous, valu la peine d'être considérés, et ont été jugées bonnes à rien sinon à être foulées aux pieds et détruites. De même, si nous trouvons à redire à ce que vous avez fait, vous avez pris soin de ne laisser en droit aucune porte ouverte sinon un Wetoverer dont l'examen et le jugement à rendre sur lui ne peuvent avoir lieu que là où vous êtes vous-même le principal, de qui une telle plainte doit être portée, et l'erreur assignée pour faire casser le jugement. Et quels fruits on peut bien en attendre, d'après ce que nous avons déjà mentionné comme ayant reçu de vos mains, vous nous l'avez fait comprendre. Et ici vous pouvez penser vous être rendu sûr et avoir suffisamment barré notre voie de recours contre nous, bien que vous sachiez que nous n'avions rien fait de contraire à la loi ni d'entrave, encore moins des entraves et souffrances que nous avions subies, vous avez procédé comme cela a été rapporté, nonobstant que vous êtes, comme tous les juges de la nation, chargés non d'un pouvoir législatif mais d'administrer la justice, et de faire la loi égale et l'exécution du droit à tous, grands et petits, riches et pauvres, sans. Vous ne pouvez ignorer ceci, refuser à un prisonnier l'un quelconque des privilèges que la loi lui accorde, c'est lui refuser justice, le juger de manière arbitraire, c'est le dépouiller de cette liberté que la loi lui donne, qui est son héritage d'homme libre. Et faire cela, c'est en effet renverser les lois fondamentales et le gouvernement d'Angleterre, et introduire un gouvernement arbitraire et tyrannique contre la loi, ce qui est trahison selon la common law, et les trahisons selon la common law ne sont pas supprimées par les statuts. I1H, Yves 1-2, M, voyez au sein, Jones, aujourd'hui chief justice of the common pleas, son argument contre Strafford, Foll, 65 et C, dans l'affaire. Chose amie, nous vous les avons exposées en toute simplicité, afin que, avec la lumière de Jésus-Christ, qui éclaire tout homme venant au monde, dont vous avez une mesure, et qui vous montre le mal et vous reprend du péché dont vous devrez rendre compte, vous étant tranquille et apaisé, puissiez considérer et voir ce que vous avez fait contre les innocents, et que la honte vous atteint et que vous vous tourniez vers le Seigneur, qui maintenant vous appelle à la repentance par ses serviteurs, que vous avez jetés en de cruels liens et souffrances. Par cette lettre, le lecteur peut observer combien nous avons été contraints de souffrir contrairement à la loi, mais le Seigneur, qui voyait l'intégrité de nos cœurs envers lui et connaissait l'innocence de notre cause, était avec nous dans nos souffrances, soutenait nos esprits et les rendait légères pour nous. Et il nous donna des occasions de publier son nom et sa vérité parmi le peuple, de sorte que plusieurs de la ville vinrent à être convaincus, beaucoup se prirent d'affection pour nous, et des amis de diverses parties du pays vinrent nous visiter. L'épouse du juge Aguet de Bristol vint nous visiter, elle fut convaincue avec plusieurs de ses enfants, et son mari fut très aimable et utile aux amis, et il avait un grand amour pour le peuple de Dieu, qu'il conserva jusqu'à sa mort. Or, en Cornouailles, dans le Devonshire, le Dorsetshire et le Somersetshire, la vérité commença à se répandre puissamment. Beaucoup furent tournés vers le Christ Jésus et son enseignement gratuit, car nombre d'amis qui venaient nous visiter furent conduits à déclarer la vérité dans ces comtés, ce qui fit enrager les prêtres et les professants, et ils excitèrent les magistrats à prendre les amis au piège. Ils établirent des veilles dans les rues et sur les chemins, sous prétexte d'arrêter des personnes suspectes. Sous ce prétexte, ils arrêtaient et saisissaient des amis qui venaient nous visiter en prison, ce qu'ils faisaient pour les empêcher de voyager au service du Seigneur. Mais le moyen qu'ils avaient imaginé pour arrêter la vérité fut le moyen de la répandre davantage, car alors les amis étaient souvent poussés à parler à un constable, à l'autre officier, et aux juges de paix devant lesquels on les amenait, ce qui fit que la vérité se répandit davantage dans toute leur paroisse. Et lorsque les amis étaient arrêtés par ces veilles, il fallait 2 ou 3 semaines avant qu'ils puissent s'en sortir, car à peine un constable les avait-il arrêtés et conduits devant les juges de paix, et ceux-ci les avaient-ils relâchés, qu'un autre les arrêtait et les conduisait devant d'autres juges de paix, ce qui causait au pays beaucoup de peine et de frais inutiles. Comme Thomas Rawlinson descendait du nord pour nous visiter, un constable dans le Devonshire l'arrêta, et la nuit, il lui prit 20 shillings de sa poche, et après avoir été ainsi dépouillé, il fut jeté dans la prison d'Exeter. Ils jetèrent aussi Henry Pollexfen en prison dans le Devonshire, sous prétexte qu'il était jésuite, il avait été juge de paix pendant presque 40 ans auparavant. Beaucoup d'amis furent cruellement battus par eux, quelques drapiers qui n'allaient qu'au moulin avec leurs étoffes, et d'autres vacants à leurs affaires ordinaires, furent arrêtés et fouettés, bien que ces hommes gagnassent environ 80 ou 100 livres par an, et ne fussent pas à plus de 4 à 5 000 de leur famille. Le maire de Launceston arrêtait tous ceux qu'il pouvait et les jetait en prison. Il fouillait les sous-vêtements de femmes respectables de la classe moyenne. Je rédigeai la liste de toutes les actions grossières, inhumaines et antichrétiennes du maire, et lorsqu'un jeune homme vint nous voir, je la lui remis, en lui disant de la sceller et de quitter la prison par derrière, puis d'entrer en ville par les portes. Il le fit, et la garde l'arrêta et le conduisit devant le maire. Celui-ci fouilla bientôt ses poches et trouva la lettre, dans laquelle il lut le récit de toutes ses actions. Cela lui fit une telle honte que, dès lors, il s'immissa rarement dans les affaires des serviteurs du Seigneur. Ils jetèrent Henry Pollexfen en prison dans le Devonshire pour être un jésuite, il avait été juge de paix durant les 40 années précédentes. Cette action montra la rage et les fruits des presbytériens, des puritains indépendants et des baptistes au temps qu'ils appelaient leur temps d'évangile, qui était au contraire le temps de la puissance des ténèbres. D'après le sentiment que j'avais du piège qui avait été tendu et du mal qu'on avait l'intention de faire en établissant ces veilles à ce moment-là pour arrêter et saisir les amis, je fus amené à donner les lignes suivantes comme une exhortation et un avertissement aux magistrats. Vous tous, puissance de la terre, Christ est venu régner, et il est parmi vous, et vous ne le connaissez pas, lui qui vous éclaire tous afin que vous croyiez tous par lui, lui qui est la lumière, qui foule seul le pressoir hors de la ville, et dont les pieds sont sur lui. Voyez donc tous, et examinez avec la lumière ce pourquoi vous êtes mûrs, car le pressoir est prêt pour vous. Avant l'honneur vient l'humilité. Vous tous qui voulez l'honneur avant d'avoir l'humilité, n'êtes-vous pas comme les païens? Vous voulez l'honneur avant d'avoir l'humilité? Tous les persécuteurs qui aient jamais été sur la terre ne voulaient-ils pas cette humilité? Ils voulaient l'honneur, et pourtant voulaient l'honneur avant d'avoir l'humilité, et ils ont appris cela. Ainsi, vous qui êtes hors de l'humilité, vous êtes hors de l'honneur, et vous ne devez pas avoir l'honneur, vous qui n'avez pas l'humilité, car avant l'honneur vient l'humilité, notez avant lui. Vous prétendez à la liberté de conscience, et pourtant on ne peut porter une lettre à un ami, ni rendre visite à ses amis, ni visiter les prisonniers, ni porter un livre sur soi, que ce soit pour son propre usage ou pour ses amis. Les hommes ne peuvent voir leurs amis, mais des veilles sont dressées contre eux pour les attraper et les arrêter, et celles-ci doivent être bien armées, contre un peuple innocent, qui n'a pas même un bâton à la main, et qu'on appelle par dérision les Quakers. Et pourtant, ceux qui dressent ces veilles prétendent à la liberté de conscience, eux qui arrêtent ceux dont les consciences sont exercées envers Dieu et les hommes, qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ce que ceux qui sont hors de la lumière appellent hérésie. Ceux-là dressent des veilles contre ceux qu'ils appellent par dérision les Quakers, parce qu'ils confessent et rendent témoignage de la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant au monde, parmi les gens lorsqu'ils traversent le pays, ou parmi leurs amis. C'est cette dangereuse doctrine contre laquelle on poste des gardes pour abattre l'erreur, comme ils disent, cette lumière qui éclaire tout homme venant au monde, lui par qui le monde a été fait, qui était glorifié avec le Père avant que le monde fût. Car c'est contre ceux qu'ils appellent par dérision les Quakers qu'ils ont dressé leur veille, des hommes capables, bien armés, pour arrêter ceux qui portent ce témoignage, que ce soit par parole, par livre ou par lettre. Ainsi c'est la lumière que vous haïssez, qui éclaire tout homme venant au monde, et ceux qui rendent témoignage de cette lumière, vous les mettez en prison, et après les avoir emprisonnés, vous dressez vos veilles pour arrêter tous ceux qui vont les visiter, et les emprisonner aussi. Ainsi, en établissant vos veilles, vous voudriez empêcher tout secours d'arriver aux prisonniers. C'est pourquoi voici la parole du Seigneur Dieu à votre adresse, et une charge pour vous tous, en la présence du Dieu vivant du ciel et de la terre, chacun de vous étant éclairé par une lumière qui vient du Christ, le Sauveur des âmes des hommes. À cette lumière prenez tous garde, afin qu'avec elle vous puissiez voir le Christ d'où vient la lumière, et le voir comme votre Sauveur par qui le monde a été fait, lui qui a dit « Apprenez de moi ». Mais si vous haïssez cette lumière, vous haïssez le Christ qui vous éclaire tous, afin que par lui, qui est la lumière, vous puissiez croire. Mais ne croyant pas à la lumière, ni ne portant vos œuvres à la lumière, qui les rendra manifestes et les reprendra, celle-ci devient votre condamneur, la lumière elle-même. Souvenez-vous que vous êtes avertis durant votre vie, car cette lumière est votre voie de salut si vous y marchez, et cette lumière est votre condamneur si vous la rejetez et la haïssez. Vous ne pouvez jamais venir au Christ, le second prêtre, avant de venir à la lumière dont le second prêtre vous a éclairé. Ainsi, vous qui ne venez pas à la lumière, vous allez aux prêtres qui prennent la dîme, comme le faisait la première prêtrise, et ainsi vous chassez hors de vos synagogues et de vos temples, comme le faisait cette prêtrise qui prenait la dîme, ce que ceux de la seconde prêtrise ne faisaient pas. A-t-on jamais vu une telle génération? Ou une telle génération d'hommes est-elle jamais apparue comme celle qui paraît maintenant en ce siècle, si pleine de folie, d'envie et de persécution, qu'ils se tiennent en veille, avec des bâtons et des armes, contre la vérité pour la persécuter, comme les villes et les campagnes en témoignent, ce qui résonne comme Sodome et comme Gomorre. Et ceci a sa liberté, et la vérité est combattue, et reprendre le péché est tenu pour une rupture de la paix, comme le disent ceux qui sont hors de la vérité, et dressent leur veille contre elle. George Fox. Outre cet avertissement général, je reçus une copie d'un mandat délivré aux sessions d'Exon, en termes exprès, pour appréhender tous les Quakers, dans lequel la vérité et les amis étaient couverts d'opprobre et vilipendés. Je fus amené à y écrire une réponse et à la faire circuler, pour innocenter la vérité et les amis des calomnies qu'on y jetait, et pour manifester la méchanceté de cet esprit persécuteur d'où cela procédait, de la manière suivante. comme il a été accordé un mandat lors des dernières assises tenues à Exeter, le 18e jour du 5e mois, 1656, lequel mandat est pour appréhender et arrêter tous qui sont Quakers, ou se disent Quakers, ou se réclament de la croyance des Quakers. Il est adressé aux constables en chef pour être transmis par eux aux constables subalternes, leur enjoignant d'établir des guets des hommes capables munis de bâtons, afin d'arrêter tous ces Quakers susdits, et puisque dans le dit mandat, vous parlez des Quakers. Ainsi avez-vous rangé des hommes honnêtes, des hommes pieux, des hommes saints, des hommes qui craignent Dieu, parmi les mendiants, les vauriens et les vagabonds, ne faisant aucune différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil. Vous n'êtes pas aptes à juger, vous qui avez fait afficher vos placards et armé vos hommes pour se tenir ensemble en bataille contre des gens innocents, les agneaux du Christ, qui n'ont point levé la main contre vous. Mais si vous étiez sensible à l'état de votre propre pays, de vos cités, de vos villes, de vos villages, à quel point leur cri est comme celui de Gomorre, leur tintement comme celui de Sodome, et leur bruit comme celui de l'Ancien Monde, où toute chair avait corrompu sa voix, que Dieu renversa par le déluge, si vous considériez cela en vous-même, vous trouveriez bien contre quoi tourner l'épée, et non contre les agneaux du Christ, et vous ne vous moqueriez pas des innocents qui rendent témoignage contre tout péché et toute injustice dans vos villes et vos maisons. Noé, la 8e personne, prédicateur de justice, était affligé par la conduite souillée des méchants, ainsi en est-il de nous maintenant. Le juste Lot était affligé par leurs actes sans miséricorde et par la conduite souillée de Sodome. Et cela n'était-il pas haïs du monde et de ceux qui vivaient dans la souillure, et vous dites de ce que, par dérision, vous appelez Quakers, qu'ils sont un sujet de peine pour ceux que vous appelez des gens pieux et religieux, et pour leur religion, tels sont ceux qui sont dans une religion vaine, dont la langue n'est pas bridée. Je crois que les Quakers sont une peine pour ceux dont la religion est vaine, mais ils ne sont pas une peine pour ceux qui sont dans la religion pure, qui se garde sans tache du monde, et qui n'affiche pas de placard ni ne met de guet pour se maintenir par le monde. Ceux qui sont dans la religion pure ne sont pas du monde et sont gardés sans tache du monde. Remarquez, la religion pure, qui se garde sans tache du monde, mais ceux qui sont dans une religion qui n'est pas pure, qui ont une forme de piété et non la puissance, telle que vous les appelez pieux, la vérité même leur fut toujours un sujet de peine, et il en est ainsi en cet âge. Et maintenant vos fruits paraissent, la fin de votre religion et de votre profession, et ce que vous possédez, mais vous êtes dans l'erreur, et vous l'avez été sauf dans la profession, étant hors de la possession de l'esprit, et donc non dans l'esprit de vérité. Car où cela a-t-il jamais posé des bornes et rangé les justes et les innocents avec les méchants? Mais les méchants posèrent des bornes et des limites aux justes et les rangèrent parmi les méchants. Oui, ils dirent de toutes sortes de mots, comme vous le faites maintenant de nous. Selon ce qui fut prédit dans l'Écriture, ceux qui tremblent à la parole de Dieu, vous les rejetez et les haïssez, vous qui avez votre culte du temple. Vous dites que les Quakers viennent vous troubler dans vos églises, comme vous les appelez. N'était-ce pas la pratique des apôtres d'aller dans les synagogues et les temples pour témoigner contre le sacerdoce qui percevait les dîmes? N'était-ce pas la pratique des Juifs de les traîner dehors, de les persécuter et de les lapider, eux qui témoignaient de Christ, le second prêtre, et voulaient détourner le peuple du premier sacerdoce? N'était-ce pas la pratique des prophètes d'aller et de crier contre les hauts lieux? Et n'était-ce pas la pratique des Juifs, lorsqu'ils étaient retournés en arrière, et des païens, d'emprisonner et de persécuter les prophètes, et de les poursuivre jusque dans d'autres pays? N'est-ce pas là votre pratique maintenant, vous qui maintenez vos hauts lieux que les papistes ont établis, que vous appelez maintenant vos églises, où vous battez et persécutez? Quel genre de gens religieux êtes-vous, vous qui êtes remplis de tant de folie? Paul n'avoua-t-il pas qu'il était dans la folie lorsqu'il était dans votre pratique, traînant, battant, emprisonnant, excluant des synagogues, ayant son autorité des principaux sacrificateurs, et les principaux sacrificateurs ne sont-ils pas la cause de cela? Y eut-il jamais, en aucun âge passé, un tel cri, comme il y en a maintenant dans les chairs, vociférant contre un peuple innocent, qui ne lève pas la main contre vous, et qui sont en vérité les pieux, de la religion pure, qui craignent Dieu et l'adorent en esprit et en vérité, mais ne peuvent se joindre à vous dans votre religion? Les ministres de Dieu, ne disent-ils pas que les Écritures sont une déclaration, que vous appelez la parole? Ne dépouillez-vous pas Christ de son titre et de son honneur, pour les donner à la lettre, et ne vous montrez-vous pas hors de la doctrine des ministres de Dieu, qui appelaient les Écritures du nom d'écrit, de traité et de déclaration, et disaient que le nom de Christ est appelé la parole de Dieu? N'êtes-vous pas ici dans l'erreur dont vous parlez, qui est un propos commun parmi vous? Il y a eu des propos parmi quelques-uns de vous au sujet de votre éclat d'évangile. L'évangile persécute-t-il? Quelqu'un de ceux qui le possédaient a-t-il jamais jeté quelqu'un en prison et empêché les autres de lui rendre visite? Êtes-vous en cela semblable à des chrétiens ou à des païens qui posent des bornes et des guets sur le pays afin qu'on ne passe pas visiter ceux qui sont en prison, A-t-on jamais entendu pareil en aucun âge? Cherchez et voyez si vous ne les avez pas tous dépassés par vos guets, sinon par votre manière de persécuter et par vos emprisonnements. Et ne dites jamais que nous sommes une peine pour ceux qui sont dans la religion pure. Et tandis que dans votre mandat, nous sommes représentés comme mal disposés envers le gouvernement, je dis la loi, qui est une terreur pour celui qui fait le mal. Nous la reconnaissons, la puissance supérieure à laquelle l'âme doit être soumise. Nous renions le malfaiteur, l'homme malveillant qui règne, et l'homme envieux qui cherche sa proie, dont l'envie est contre l'innocent, qui soulève le pays contre les hommes honnêtes, et devient ainsi un trouble pour le pays en les excitant à saisir l'innocent. Mais cela, nous le laissons au Seigneur pour juger. Vos fausses accusations d'hérésie et de blasphème, nous les rejetons. Vous auriez dû en déclarer les détails, afin que le peuple les eût vus, et ne pas nous calomnier derrière notre dos. La loi disait que le crime devait être mentionné dans le mandat. Ensuite, quant à ce que vous dites, nous nions que le ministre pieux soit un véritable ministère de Christ. Cela est faux, car nous disons que les ministres pieux sont les ministres de Christ. Mais lequel de vos ministres ose dire qu'il est vraiment pieux? Et quant à nous accuser de séduire beaucoup de faibles gens, cela est faux aussi, nous ne séduisons personne. Mais vous, qui niez la lumière qui éclaire tout homme venant au monde, vous êtes égarés loin de l'onction qui devrait vous enseigner, et si vous vouliez être enseigné par elle, vous n'auriez pas besoin que quiconque vous enseigne. Mais ceux qui sont enseignés par l'onction qui demeure en eux, et qui refusent l'enseignement des hommes, ceux-là, vous les appelez séducteurs, tout à fait à l'encontre de la doctrine de Jean. 1 Jean 2, 26-27. Ce qui est vérité, vous l'appelez séduction, et ce qu'il appelle séduction, vous l'appelez vérité. Lisez la dernière partie du chapitre. Et prenez garde, je vous avertis tous de la part du Seigneur Dieu de gloire, ne mettez aucune borne contre lui. Ne limitez pas le Saint d'Israël, car le Seigneur se lève en puissance et en grande gloire, lui qui régnera sur les nations avec une verge de fer, lesquelles ne sont pour lui que comme une goutte d'un seau. Celui qui mesure les eaux dans le creux de sa main écrasera des nations, les unes contre les autres comme un vase de potier. Et sachez, vous qui êtes trouvés en ce jour à blasphémer son œuvre qu'il a fait paraître, l'appelant blasphème, la combattant dressant vos armes charnelles, rendant vos liens plus forts, Dieu brisera ce que votre politique charnelle a inventé et que par vos armes charnelles vous voudriez soutenir, et il vous fera savoir qu'il y a un Dieu dans le ciel, qui porte ses agneaux dans ses bras venus parmi les loups, prêts à être mis en pièces en tout lieu, oui dans vos maisons à clocher, où l'on a paru sans raison ni affection naturelle. C'est pourquoi vous tous, constables subalternes, shérifs et juges de paix, prenez avertissement, prenez garde à ce que vous faites contre les agneaux du Christ. Car le Christ est venu, et vient, qui donnera à chacun de vous une récompense selon vos œuvres, vous qui avez la lettre, qui parle de Christ, et qui persécutez ce dont parle l'Écriture, ainsi vos fruits vous manifestent. Que chacun donc shérif, juge, constable, etc. considère ce qu'il possède, et dans quelle profession il est maintenant, puisque toutes ses armes charnelles sont dressées contre les innocents, oui contre la vérité, ce qui montre que vous n'avez pas les armes spirituelles, et que vous manquez du conseil de Gamaliel, oui vous manquez parmi vous du conseil d'un tel homme qui dit, « Laissez les apôtres, si cela vient de Dieu, cela subsistera, si cela ne vient pas, cela tombera à néant. » Mais vous pouvez vous voir, au contraire, dans l'esprit de ceux qui vinrent avec Judas, avec des épées et des bâtons, de la part des principaux sacrificateurs contre Christ, c'est toujours contre Christ, là où il est manifesté. Paul, lorsqu'il était seul, alla contre lui, bien que lui et les Juifs professassent un Christ à venir, pourtant Paul le persécuta là où il était manifesté dans ses seins. Ainsi vous professez un Christ venu, mais vous le persécutez là où il est manifeste. Vous qui avez la lettre, les hauts lieux, les synagogues, vous le persécutez là où il est manifesté dans ses seins, comme le firent les Juifs. Ceux qui étaient dans la lettre, hors de la vie, persécutèrent ceux qui étaient dans la vie de ce qu'ils professaient dans la lettre, ainsi persécutez-vous ceux qui sont dans la vie, tandis que vous en êtes vous-mêmes étrangers, comme vos fruits le rendent évident. Vous avez rangé le peuple de Dieu parmi les transgresseurs, mais avez-vous emprisonné l'un quelconque des vauriens et transgresseurs dont vous parlez? Vous avez emprisonné l'innocent et laissé les autres en liberté. George Fox, après avoir envoyé au loin ce qui précède, un si grand sentiment m'envahit du voile de ténèbres qui couvrait les prêtres et les professants du christianisme, que je fus poussé à publier ce qui suit. Comme un avertissement d'éveil pour eux, un aveuglement est survenu aux chrétiens professant de la lettre de nos jours, comme l'aveuglement survint aux juifs, qui professaient la lettre, mais ne reconnaissaient pas la vie dont parle la lettre, comme les chrétiens d'autres dieux, sur qui cet aveuglement est venu, qui professent l'écriture, mais ne reconnaissent. Car c'est contre la vie que se tinrent les juifs, eux qui professaient la lettre de l'écriture, mais ils étaient aveugles, ils tinrent conseil contre la vie, ils furent en tumulte lorsque l'enfant naquit à Bethléem, Hérode et tous les principaux sacrificateurs. Et Hérode chercha à faire périr tous les petits enfants de Bethléem, mais manqua l'enfant, Hérode, ce renard, bien qu'il eût mis Jean à mort. Vous pouvez voir ici comment les professants littéraux se levèrent, non pour la vérité, mais tout à fait contre elle. De plus, les principaux sacrificateurs se concertèrent pour savoir comment ils pourraient prendre Jésus par ruse et le faire mourir. Remarqués par leur ruse, les professants d'un Christ à venir prêchaient un Messie, un Christ, un Sauveur, mais nièrent la vie lorsqu'il fut manifesté. Les principaux sacrificateurs, assemblés avec le conseil, dirent que ses disciples l'avaient dérobé de nuit, et ils donnèrent de grandes sommes d'argent aux soldats pour qu'ils le déclarent. De même, au temps où les enfants d'Israël étaient en Égypte, et que dès leurs enfants commencèrent à s'étendre et à se multiplier, les Égyptiens dirent « Allons, usons de sagesse à leur égard pour les affliger et les taxer », et cela dura jusqu'à ce que le Seigneur renversa leurs oppresseurs et fit sortir sa semence par sa puissance de dessous l'oppresseur, et exalta son Fils au-dessus de tous, bien que les païens fussent en fureur et que les peuples imaginassent des choses vaines. Il fit connaître sa puissance, afin que tous vissent qu'il n'y avait point de Dieu sur la terre, sinon lui-même. Cette puissance, maintenant, a fait paraître l'œuvre du Seigneur, beaucoup, qui sont tournés vers la lumière, Christ, ont reçu la puissance de Dieu et par là sont devenus fils de Dieu. Or cette naissance, née de Dieu, toutes les puissances du monde se joignent pour la crucifier, pour mettre à mort ces Juifs en esprit, comme ils mirent autrefois Christ à mort dans la chair. C'est cette naissance contre laquelle tout le monde méchant s'irrite. C'est contre elle qu'ils établissent leur guet, cette naissance, produite par le Dieu puissant de Jacob, qui chevauche sur les hauts lieux de la terre. C'est cette naissance que les chrétiens professants, sans la vie de nos jours, attaquent avec rage, et à laquelle ils appliquent toute leur sagesse. Les principaux, sacrificateurs, et les sages de la terre, ne tiennent-ils pas conseil ensemble, pour savoir comment ils pourront détruire cette naissance? N'est-ce pas cette naissance qui est bannie de vos cœurs, vous qui professez l'Écriture et en parlez beaucoup, mais ne reconnaissez pas la lumière et la vie dont parle l'Écriture, comme les Juifs ne le voulurent pas, et ainsi vous ne voulez pas que Christ règne sur vous, comme eux ne le voulurent pas, ne traînez-vous pas hors de vos synagogues et devant les magistrats. Ne réalisez-vous pas ainsi les paroles du Christ, qui dit à ses disciples qu'il serait traîné hors des synagogues et devant des gouverneurs, ne les persécutez-vous pas de ville en ville. Ne remplissez-vous pas presque vos prisons d'eux, et maintenant vous établissez vos guets afin que personne ne leur rende visite, à ceux que vous avez jetés en prison? N'est-ce pas là un esprit non chrétien? Comment pouvez-vous, sans honte, dire que vous êtes les défenseurs de la vérité? Ou comment pouvez-vous, sans honte, dire que la vérité a été professée parmi vous? Nous concédons que vous en avez parlé. Et comment pouvez-vous, sans honte, dire « L'Évangile brille parmi vous » quand vous ne voulez pas le reconnaître, la vie qui est en lui, quand vous l'appelez erreur et la mauvaise semence, oui, la vérité même, la vie même de la vérité, vous avez maintenant blasphémé contre elle, comme les Juifs blasphémèrent contre Christ l'appelant un démon, vous l'appelez maintenant erreur et mauvaise semence, et vous vous levez contre elle, et vous tournez l'épée contre elle. Comme ce fut au jour des Juifs qui tournèrent l'épée contre Christ, ainsi en est-il en ces jours-ci des professants chrétiens de l'Écriture, mais hors de la vie qu'il a produite, comme ceux-là étaient Juifs au dehors dans la chair, et non Juifs en esprit. N'est-ce pas une honte pour les ministres de l'Évangile, comme on les appelle, qu'ils ne puissent trouver meilleur moyen de maintenir ce qu'ils appellent la vérité et leur Évangile que par des armes charnelles, les entraves, les prisons, les fouets, les guets et les gardes, et les puissances de la terre, étaient-ce les armes des apôtres? Des guets charnels, des entraves, des prisons et des expulsions des synagogues lorsqu'ils venaient parler, jugez-vous-même quel esprit antichrétien vous avez. Ne parlez jamais de défendre la vérité par ce qui est contre la vérité. Car ne soulevez-vous pas la populace du monde contre elle? Ne se joignent-ils pas à vous, avec des épées et des bâtons, contre elle? Est-ce là la vie des chrétiens? N'est-ce pas là la vie de l'erreur et du mauvais semeur? Assurément, vous trouveriez assez d'ouvrages, si vous étiez dans la crainte du Seigneur, pour tourner vos épées contre la profanation, les serments et la méchanceté qui sont dans vos rues et vos chemins. Comme ils résonnent comme Sodome et rendent un son comme Gomorre, mais ceux-ci sont devenus une proie en cet âge, ceux qui reprennent à votre porte le péché, la méchanceté et la profanation. Ils sont devenus votre sobriquet. Contre eux vos conseils se rassemblent, vous les jetez en prison, et les traînez hors de vos synagogues, et vous jetez aussi en prison ceux qui écrivent et parlent contre cela, et vous mettez des gardes pour empêcher et entraver quiconque de leur rendre visite, à ceux que vous jetez en prison, et vous leur donnez les noms de vagabonds et d'errants. A-t-on jamais entendu pareil au jour des païens contre les apôtres, qui rendaient témoignage à l'Évangile? Ont-ils établi des gardes et des guets dans chaque bourg, dans chaque ville, pour arrêter les disciples, les frères, les croyants, qui apprenaient que les apôtres avaient été jetés en prison, et venaient voir de quoi ils avaient besoin? Ne montrez-vous pas autant de rage et de fureur maintenant, en votre âge, qu'il y en avait chez ceux de cet âge-là? Comment pouvez-vous parler de l'Évangile et de défendre l'Évangile, quand vous établissez des gardes et des guets contre lui, et que vous défendez ce qui se tient contre lui, et que les agneaux du Christ sont presque mis en pièces parmi vous, vous qui êtes comme des loups, car le Seigneur a maintenant envoyé ses agneaux parmi les loups. N'avez-vous pas professé les paroles de Christ, des prophètes et des apôtres, comme les Juifs avaient longtemps professé les Écritures, les paroles de Moïse et des prophètes qui prophétisaient de Christ à venir, et se tinrent contre lui lorsqu'il fut venu? Comme vous le faites en ce jour de son règne, en ce jour de son évangile glorieux, vous qui persécutez les messagers de celui-ci, les emprisonnant, les persécutant dans vos rues et vos chemins, et dressant vos guets contre ceux qui apportent à vos âmes la bonne nouvelle de la paix, dont les pieds sont beaux sur le sommet des montagnes, remarquez sur le sommet des montagnes, contre quoi les montagnes s'irritent et se gonflent, mais Dieu les fera fondre, le soleil s'est levé qui les fera fondre. Dieu fendra les rochers et les montagnes, et fera courber perpétuellement les collines, car son Fils il l'exaltera, et sa gloire il la lui donnera, et non à un autre. Réveillez-vous donc, vous gouvernants de la terre, et prenez conseil du Seigneur. Ne prenez pas conseil ensemble contre lui, ne rendez pas vos liens plus forts. Ne vous mettez pas en bataille contre lui, car on ne vous trouvera que comme des ronces et des épines devant lui, que le feu consumera. Réveillez-vous donc, vous tous parleurs de l'Écriture, qui vous assemblez par vos multitudes et vos réunions, et avez eu vos maîtres, mais n'ayant pas l'Esprit qui donna les Écritures, le Seigneur Dieu de gloire, le Père des Esprits, vous dispersera. Tous vos liens ne vous tiendront pas ensemble, vous qui êtes hors de l'Esprit, qui est le lien de la paix. L'instrument de battage est sorti, qui mettra les collines en pièces. Si on s'est levé pour battre, de la montagne sainte, la trompette a sonné, ne vous dressez pas contre le Seigneur, car toutes les nations sont pour lui comme une goutte d'un seau. Celui qui mesure les eaux dans le creux de sa main et pèse la terre à la balance, le Seigneur des armées est son nom, qui s'est maintenant levé et se lève pour plaider la cause de l'innocent, et exalte son Fils, et ramène à lui ses brebis. Maintenant on voit et l'on connaît ceux qui se nourrissent de vent, qui sont enflés, livrés à croire des mensonges, qui rapportent et disent « rapportez » et nous le rapporterons. Maintenant on voit ceux qui ont une forme de piété, mais en nient la puissance, ainsi Christ est nié, car Christ est la puissance de Dieu. Et la puissance étant niée par vous, qui avez une forme de piété et les paroles des Écritures, l'Évangile est nié, car l'Évangile est la puissance de Dieu. Ainsi en est-il parmi vous qui avez une connaissance et une sagesse sensuelle, terrestre et diabolique. Cela ne paraît-il pas ainsi, que vos geôles et vos guets témoignent de vos fruits dans chaque ville? Votre sagesse est terrestre, sensuelle et diabolique. Vous avez une connaissance et une sagesse, mais non celle qui vient d'en haut, car celle-là est pure et douce, votre connaissance ne l'est pas. Mais connaître Christ, c'est la vie éternelle. Vos fruits ont manifesté que vous n'êtes pas de cela, et donc hors de la puissance de Dieu, qui est la croix du Christ, car on vous trouve dans le monde, hors de la puissance de Dieu, hors de la croix du Christ persécutant. Qu'est-ce donc qui persécute et envoie des écrits et des décrets pour arrêter et saisir tous, et établir des guets, et préparer des liens pour limiter le Seigneur, pour emprisonner et persécuter, et ne souffrir que personne aille leur rendre visite? Cela montre que vous n'êtes pas chrétien, mais vous vous dressez contre la vie chrétienne, qui conduit à aimer ses ennemis. Où est votre amour pour vos ennemis, vous qui persécutez ainsi vos amis? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Voilà qu'on tourne l'épée contre le juste. Montrez-vous ici une vie de chrétien, ou vous montrez-vous chrétien, vous qui remplissez vos geôles de chrétiens en esprit, vous qui êtes dans la lettre, dans les ombres, comme les Juifs dans la lettre mettaient les Juifs en esprit en prison. N'est-ce pas le fruit, de nos jours, des chrétiens de la lettre, de mettre en prison des chrétiens en esprit? Cela ne montre-t-il pas que vos décrets, que vous avez publiés, procèdent de la mort, vous qui agissez ainsi contre la vie et contre ceux qui y sont, vie de laquelle les Écritures furent données? N'est-ce pas ici, comme ce fut avec Saul, lorsqu'il alla persécuter, traîner en prison et lier tout ce qu'il pouvait trouver invoquant ce nom, qui était chrétien dans la vie, dans l'esprit, tel que vous persécutez parce qu'ils sont dans la vie, bien que vous professiez leurs paroles? Vos décrets ne sont-ils pas sortis du même esprit d'envie, contre le même esprit de Christ dans lequel ils étaient? N'est-il pas manifeste à tous ceux qui craignent Dieu, et aux gens sobres et aux cœurs honnêtes, qui voient vos pratiques, vos décrets, vos lettres pour arrêter, importuner, entraver, emprisonner ce que le Seigneur pousse à faire sa volonté, ou à aller visiter des prisonniers que vous avez emprisonnés? Cela montre-t-il que vous avez un esprit comme celui de Paul, oui ou non? N'êtes-vous pas tout à fait contraire, comme ceux qui persécutèrent Paul, le jour l'a déclaré? À ce qu'il y a de Dieu en vous tous, je parle, ce qui en rendra témoignage au dernier jour, au jour du jugement. La persécution fut aveugle en tous âges, et la folie et la déraison la conduisirent, pourtant la persécution se procura toujours une forme ou un prétexte de piété, un discours de religion, comme au jour de Moïse, de Jérémie, de Christ et des apôtres. « Allons, dit le conseil, écrasons-les pendant qu'ils sont jeunes, ils ont presque envahi la nation en tous ses recoins. » C'est autant que de dire, « Mettons à mort cette naissance, comme Pharaon et Hérode le firent des enfants. » Mais le Seigneur fit d'autant plus répandre sa vérité. car vous pouvez lire combien sortirent d'Égypte et quelle multitude suivirent Christ. Lisez donc ces lignes avec réflexion et non avec fureur. Que la folie ne paraisse pas, mais considérez avec humilité les chemins où vous marchez, de quel esprit vous êtes et quelle est la fin de votre conduite, car c'est par amour pour vos âmes que j'écris, afin qu'au jour de votre visitation vous y réfléchissiez. De la part de celui qui aime la justice et son établissement, ainsi que la vérité, la paix et la foi, qui est par Jésus-Christ, que miséricorde et paix soient multipliées parmi ceux-là. Mais un témoin contre tous les hypocrites et tous ceux qui ont une profession, mais viveurs de la possession, dans une religion hypocrite, dans les convoitises et les modes du monde, ayant une forme de piété, mais se dressant de toute leur force, épée et bâton, contre la puissance. Ces choses déclarent que votre conduite et vos pratiques sont hors de la vie de Christ, contre la pratique de l'Évangile, et contraires à la manière et à l'ordre des saints. George Fox Back Next.